Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre, émission spéciale pour vous aider à traverser la crise liée au Covid-19. Quand le numérique et le papier se rapprochent, ça crée du lien dans les familles. Vous allez l'entendre, Antoine Moulin est le cofondateur de l'entreprise Parle à Papy. Bonjour Antoine Moulin.
Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui.
Eh bien, merci d'être avec nous pour Le Goût d'entreprendre. Rapprocher les familles en ce moment, Antoine, est essentiel. Avec Parle à Papy, vous proposez d'envoyer des cartes postales et des photos aux grands-parents qui se trouvent hébergés dans les EHPAD. Comment ça marche, Antoine ?
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Parle à Papy, c'est une solution assez simple, en fait. Qu'on a monté il y a 2 ans avec mon associé. En fait, ce qu'on permet avec Parle à Papy, c'est tout simplement aux familles d'envoyer très facilement des photos papier directement dans la boîte aux lettres de leurs grands-parents tous les mois depuis une conversation WhatsApp. Donc l'idée derrière, c'est de recréer du lien entre les générations qui n'ont pas forcément habituellement les mêmes moyens de communication, on va dire. Certains sont plus digitaux, d'autres un peu moins la plupart du temps. Et en fait, on essaye de faire le lien un peu entre les smartphones et les boîtes aux lettres en se disant que ça peut être une bonne chose pour les petits-enfants de pouvoir envoyer avec leurs outils digitaux, leurs smartphones, très facilement des photos et pour les grands-parents de recevoir ces photos au format papier dans leur boîte aux lettres.
Alors, vous parlez de WhatsApp, mais papy, mamie n'ont pas forcément WhatsApp. Comment vont-ils ?
Tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, justement, c'est toute l'idée du service, c'est que WhatsApp n'est utile que pour les petits-enfants dans notre service, puisque ce sont les petits-enfants et les enfants qui utilisent WhatsApp pour envoyer les photos, alors que les grands-parents de leur côté, eux, reçoivent les photos au format papier, dans leur boîte aux lettres, tous les mois. Donc, en fait, l'idée, c'est de permettre justement aux grands-parents de ne pas avoir à utiliser WhatsApp, de ne pas avoir à utiliser des outils digitaux, puisque, en fait, nous, on fait un peu tout simplement la transition.
Le facteur, en fait.
On fait la boîte aux lettres, on fait l'imprimeur, en fait. On fait toutes ces petites tâches qui, finalement, sont pas très complexes, mais qui, mises bout à bout, sont longues et qu'on n'aurait sûrement pas le courage de faire tout seul, qui sont tout simplement récupérer les photos qu'on a sur nos smartphones. On les récupère dans les conversations WhatsApp des familles, on les imprime et après, on les envoie par la poste. Tout simplement chez les grands-parents.
Et là, vous avez décidé de faire quelque chose d'un peu spécial en cette période, c'est-à-dire d'offrir ce service.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, déjà, il faut bien avoir en tête que, tout le monde le sait, les personnes âgées sont les plus touchées d'un point de vue sanitaire par la crise actuelle, mais du coup aussi forcément d'un point de vue social. Ça a été la première partie de la population à être confinée. Ils ont été confinés quasiment une semaine avant nous. Tous les EHPAD ont commencé à fermer l'accès aux visiteurs dès mi-mars. Et du coup, en fait, derrière la crise sanitaire, il y a une crise sociale qui s'est fait ressentir assez vite, liée à l'isolement, puisque ces personnes âgées n'avaient plus autant de visites que précédemment, d'une part, et n'avaient pas, comme nous, les moyens de communication, en tout cas la plupart du temps, que l'on a aujourd'hui. Et du coup, quand on est isolé chez soi et qu'on n'utilise pas Internet ou les réseaux sociaux, l'isolement est beaucoup plus aigu. D'autant plus que du fait que aujourd'hui les jeunes générations sont habituées à des moyens de communication technologique très rapides, on a tendance, et c'est normal, à délaisser les moyens de communication plus traditionnels comme le courrier. Et du coup, les personnes âgées qui, elles, utilisent encore ces moyens de communication, c'est pas les seuls, bien entendu, il y a aussi le téléphone, mais quand même, le courrier, c'est quelque chose d'important, reçoivent de moins en moins de nouvelles, forcément, alors qu'on est de plus en plus connectés.
Donc, c'est vraiment un rayon de soleil que vous apportez dans les EHPAD aujourd'hui, d'autant que vous proposez d'envoyer des dessins à des personnes qui sont seules et qui, elles, malheureusement, ne reçoivent jamais de courrier.
Oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur l'initiative qu'on a mis en place, en fait, on a décidé au début du confinement de rendre le service entièrement gratuit. Ouais. Pour tout le monde. Donc, sur notre site aujourd'hui, il y a une page dédiée à ça, l'initiative solidaire, sur laquelle on peut s'inscrire sans avoir à rentrer de coordonnées bancaires, sans engagement, sans paiement. Donc, c'est gratuit. L'idée, c'est vraiment de ne pas proposer un mois gratuit, mais vraiment de simplement dire à tous les gens qui le souhaitent, on met à disposition notre service gratuitement pendant la période du confinement et les familles peuvent s'inscrire. et envoyer une carte postale de manière hebdomadaire. Donc, enfin, pas une carte postale, mais quatre, puisque le principe, c'est que vous vous inscrivez et vous pouvez envoyer jusqu'à quatre photos dans votre conversation WhatsApp que l'on crée pour vous. Et ces photos sont imprimées et envoyées chez les grands-parents la semaine suivante. Donc ça, c'est la première partie de l'initiative. Et ensuite, on s'est dit que il fallait peut-être aller plus loin, parce que toutes les personnes âgées n'ont pas la chance d'avoir soit d'avoir
Bien
des
sûr.
petits-enfants, soit d'avoir des petits-enfants qui font cet effort de leur envoyer des photos, de leur envoyer des cartes postales. Et du coup, on s'est associé à une autre initiative qui s'appelle Nos Vieux, qui en fait propose de aux familles de poster sur les réseaux sociaux les dessins de leurs enfants et de les partager avec des personnes âgées. Et en fait, nous, pour nos vieux, ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est d'imprimer ces dessins et de les envoyer à des personnes âgées isolées. Donc, on a une liste de personnes âgées isolées, on a des dessins qui sont faits par des enfants et on les imprime tout simplement et on les envoie aux personnes âgées pour leur envoyer des nouvelles et leur dire que il y a quelqu'un en France
on pense
qui pense à eux.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'émotions hein, là-dedans, j'imagine, quand ces personnes reçoivent la lettre, le dessin.
Ouais,
vous avez des retours?
Alors, on a des retours. Sur les dessins, pas encore, parce qu'on les envoie à partir de cette semaine. Mais ouais. sur les envois des photos, on en a beaucoup. On en a de la part des familles, puisque comme on est dans des conversations, comme on est un service entièrement basé sur WhatsApp, les familles, on a un rapport, on est très proche avec nos familles. Elles discutent, elles nous posent des questions. Elles nous interrogent sur ce qui se passe et elles nous font aussi des retours et l'initiative rencontre beaucoup de succès. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des nouvelles familles qui s'inscrivent à l'initiative, en fait, entendent parler de Parle à Papy par nos familles abonnées parce que, tout simplement, dans les temps actuels, les gens prennent conscience de l'importance que ça peut avoir de rester en contact et ce petit geste tout simple d'envoyer des photos, la différence que ça peut faire pour les personnes âgées. Donc, on a des retours des familles directement. Et on a aussi des retours des personnes âgées, puisque depuis quelques mois maintenant, on permet aux personnes âgées en fait de faire un retour par voie postale pour leur famille. Donc en fait, tout simplement, dans le courrier que les personnes âgées reçoivent à leur domicile, elles ont notre adresse avec un petit billet qui leur indique qui les incite, s'ils en ont envie en tout cas, à répondre et qui leur explique que nous, on va après faire passer la lettre, le courrier. Aux membres de leur famille. Et du coup, nous, on reçoit des courriers des personnes âgées qu'on s'occupe de scanner et d'envoyer dans la conversation WhatsApp à tous les membres de la famille. Et du coup, forcément, bah, au passage, on reçoit tous les compliments des personnes âgées qui, en fait, écrivent aux familles et en profitent aussi pour remercier l'équipe parce qu'ils ont conscience que derrière, il y a toute une équipe qui est là pour faire en sorte que chaque mois, leur courrier puisse arriver à domicile.
C'est ça, voilà, pour faire le facteur un peu virtuel, mais pas que, hein, uniquement. Vous avez eu beaucoup de demandes ces dernières semaines?
Ouais, bah, ces dernières semaines, je vous cache pas, on a été assez chargés. On a eu plus de 2000 nouvelles inscriptions en une dizaine de jours. Donc,
ouais.
Par rapport à, on est une toute petite entreprise, je le disais au début. Donc, en fait, ça revient à dire qu'on a triplé de taille en 2 semaines. Donc, ouais, les dernières semaines ont été très chargées. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde.
Il y a une question qu'on doit vous poser souvent, c'est les données. Qu'est-ce que vous faites des données? Parce que vous êtes au cœur du dispositif, vous rentrez dans la vie des familles, donc vous vous engagez à les détruire, à surtout ne pas les commercialiser, j'imagine?
Tout à fait. C'est un élément très important pour nous. Donc on ne fait absolument aucun usage commercial des données qui nous sont fournies. Donc les données qu'on a, c'est... En fait, il y a deux types de données. Il y a les données sur les grands-parents et les données de la famille. Les données sur les grands-parents, c'est essentiellement l'adresse, en fait. Donc ça, on n'en fait aucun usage autre que l'envoi des enveloppes tous les mois. Ça, c'est évident. Et ensuite, si ça peut rassurer les familles, on a mis en place la suppression systématique des photos qu'elles nous envoient tous les 2 mois, au bout de 2 mois. C'est-à-dire que si vous nous envoyez une photo à Parle à Papy, on va la stocker pendant encore 1 mois au cas où... Par exemple, il y a eu un problème d'acheminement par la poste, qui arrive très rarement, mais ça peut toujours arriver. On garde la photo 1 mois de plus et le mois suivant, on la supprime. Donc, on n'a pas de conservation des données.
Vous êtes en confinement aussi, puisque vous êtes tous en télétravail dans l'équipe. Hein un peu partout, retournez voir la famille dans toute la France. Mais j'imagine que vous planchez déjà à l'après-crise. Comment vous avez envie de vous développer?
Ouais, tout à fait. Ben, on réfléchit. Alors, je vous cache pas que comme on a été très pris ces dernières semaines par l'ouragan de nouvelles familles, on n'a pas énormément de temps encore pour se projeter sur l'avenir, mais
Bien
on a,
sûr.
on commence déjà à avoir des premières idées. Par exemple, bah, on se rend compte qu'on a énormément de familles qui nous font la demande. Notre service à l'origine est mensuel. Et on a énormément de familles qui nous font la demande d'avoir plus de régularité dans l'envoi, de pouvoir envoyer toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. C'est ce qu'on met en place d'ailleurs là pendant la période de confinement. Les envois, on les fait d'une semaine sur l'autre. Donc ça, c'est un grand chamboulement pour nous. Mais en fait, jusqu'à maintenant, on l'avait pas mis en place parce qu'on se rendait pas forcément compte qu'il y avait un besoin et qu'on pensait que c'était très compliqué techniquement. Enfin, on se faisait un peu une montagne. Et en fait, une fois qu'on a été forcé à le faire, on l'a fait. Et aujourd'hui, on est capable de le faire. Et du coup, c'est très probable que le modèle change un petit peu à ce niveau-là pour permettre plus de régularité dans les envois. Et puis après, il y a la question, mais là, je serais incapable de vous dire comment ça va se passer, mais forcément, on a beaucoup grandi en quelques semaines, on va continuer à grandir, puisque a priori, le nombre de nouvelles familles ne faiblit pas, voire continue de s'accélérer. Donc, on va continuer à grandir. C'est probable qu'on doive un peu se restructurer, potentiellement recruter par la suite. Enfin, on recrutera le jour où on pourra avoir des bureaux et travailler tous ensemble, mais la question se posera,
Mais
c'est
la
sûr.
question se posera, oui, complètement. Antoine, ça veut dire, on va parler quand même budget. Pour l'instant, on est bien d'accord, vous offrez ce service pendant la période de confinement.
Oui.
Mais par la suite, il faut compter combien à peu près pour une famille pour pouvoir envoyer ses photos, on va dire, une fois par mois?
Alors, dans notre service habituellement, on a des prix qui varient en fonction du nombre de photos que la famille souhaite envoyer. Donc, les prix habituels, c'est 5,90 € pour envoyer 4 photos par mois. Et ça varie, on peut envoyer jusqu'à 20 photos par mois. Et pour 20 photos par mois, ça coûte
C'est très
14,90 €.
abordable.
C'est, j'imagine, une question de point de vue. C'est vrai qu'en général, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, que c'est pas le prix le problème. Le problème, c'est plus l'énergie que les gens sont prêts à mettre pour faire cet envoi de photos qui demande quand même une petite rigueur, on va dire, une petite motivation générale de tous les membres de la famille. Voilà. Aujourd'hui, du coup, l'opération a forcément un coût pour nous puisqu'on a une 2000 nouvelles familles qui ne payent pas le service.
Bien sûr, bien sûr.
Après, voilà, nous l'idée, c'est aujourd'hui on a les moyens de continuer comme ça un certain temps, pas indéfiniment. C'est pour ça que parallèlement, on a mis en place une petite cagnotte solidaire qui permet en fait à quiconque a envie de nous aider de faire un petit don en fait, tout simplement. Donc la cagnotte, elle s'appelle Solidarité pour nos aînés. Elle est disponible sur la plateforme de financement participatif Ulule et en fait, elle nous permet de financer l'envoi des photos hebdomadaires pendant toute la période du confinement d'une part et l'envoi des dessins dont on parlait tout à l'heure aux personnes âgées isolées qui pour le coup ne sont pas clientes de par la papy mais c'est pas pour autant
Qui
qu'elles ne méritent
bénéficie de
pas de
ces
recevoir des
services.
nouvelles comme tout le monde
Voilà.
voilà et du coup de financer aussi ces envois-là.
Tout à fait. Donc, si on peut vous aider, on peut participer sur la plateforme Ulule.
Tout à fait.
Bravo à vous pour cette belle initiative qui nous rapproche un peu, on va le dire. Par la papille, on vous trouve
Merci beaucoup.
facilement sur le net.
Tout à fait. On est
Merci.
disponible sur notre site qui s'appelle donc comme notre nom, parlapapi.com. Ça s'écrit PARLAPAPI.
Tout simplement, merci
Tout
Antoine.
simplement.
Vous êtes créateur d'entreprise et vous proposez des solutions. N'hésitez pas à nous contacter entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans un numéro spécial du Goût d'entreprendre. Nous accompagnons les créateurs et dirigeants d'entreprises dans cette crise liée au Covid-19. 14 000 restaurants, hôtels, bars en Occitanie ont dû fermer leurs portes en mars dernier. Où en sont-ils aujourd'hui? Quelles sont les démarches à entreprendre? Réponse avec Fabien Jeanjean, le président du GNI Occitanie, le groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Bonjour Fabien Jeanjean, vous êtes également restaurateur à Toulouse. Votre activité s'est arrêtée, mais vous êtes toujours en réunion par visioconférence avec les instances régionales comme la Direct pour avancer sur les démarches mises en place par votre profession. Les directives, les informations changent un peu tous les jours. Alors comment fait-on, Fabien, pour s'y retrouver quand on est professionnel?
Eh bien, vous venez de le signaler, il faut une veille permanente. Et à ce titre, en tant que président d'une organisation professionnelle, c'est ce que nous faisons pour le compte de nos adhérents. Le but du jeu, c'est de sourcer l'information, de la vérifier et de la transmettre dans la plus grande clarté. Il y a énormément d'informations qui viennent d'un petit peu toutes les strates, que ce soit l'État, le conseil régional, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il faut savoir condenser, clarifier le message et veiller à ce qu'il est toujours d'actualité le lendemain.
Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent à présent?
Je pense que pour la plupart des professionnels, ils ont bien compris les mécanismes d'accompagnement. Il y a eu un premier effet de sidération, hein, qui a été valable pour tout le monde et moi le premier. On a fermé nos établissements avec la gorge nouée.
C'est ça, à 21h, on a annoncé la fermeture pour minuit, en fait.
Tout à fait. Donc ça a été très brutal. Les 3 premiers jours, je pense qu'on était tous un peu hagards. Il a fallu s'occuper de vider nos chambres froides, de s'occuper des denrées périssables. On a beaucoup donné à nos salariés, on a beaucoup donné à la banque alimentaire. C'était la priorité, c'était clôturer sans savoir quand est-ce qu'on réouvrirait. Une fois ce cap passé, je pense que beaucoup ont été chercher les premières informations sur les banques, sur les assurances, sur le chômage partiel. Après, aujourd'hui, le plus grand nombre de questions, c'est surtout sur des cas particuliers. Beaucoup aujourd'hui sont sans réponse puisque vous savez les services sont quasiment injoignables à l'heure
Ouais,
actuelle.
c'est difficile de joindre, par exemple, à la directe. Il y a des numéros spéciaux qui ont été mis en place. Les professionnels ont du mal pour les joindre.
Oui, énormément. Après, je pense que l'État savait que ce serait difficile. Donc ils ont décidé de mettre beaucoup de reports. Aujourd'hui, on
Report
part
de
du
charge,
principe
vous voulez dire?
de report de charge. C'est un peu, on va pas traiter l'information de suite, on la traitera dès qu'on pourra. Donc aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de professionnels qui n'ont pas reçu leur code d'activation pour le chômage partiel.
Ah oui.
Donc bon, l'ordre de la directe était très clair. Vous déposez une demande, vous n'avez pas de nouvelles sous 48 heures, ça veut dire qu'elle est acceptée. Mais là, on est en fin de mois, il faut faire les fiches de paie et on ne sait toujours pas quoi mettre sur nos fiches de paie. Donc beaucoup d'entre nous ont décidé de faire des acomptes sur salaire et on régularisera dès qu'on aura des nouvelles des services de l'État.
Voilà, c'est ça. Est-ce que les assureurs, par exemple, ont pu prendre le relais ou ce n'est pas du tout prévu dans leur clause?
Les qui?
Les assureurs?
Je ne sais pas qui c'est les assureurs. Je peux vous
Ah.
garantir que personne dans notre profession ne sait ce qu'un assureur à l'heure actuelle.
D'accord,
Voilà,
absent en fait.
c'est affligeant de voir une profession se retirer de cette manière.
Et comment vous l'expliquez? Parce que ce n'est pas prévu dans les clauses du contrat, ce type de situation?
Comment l'expliquer? C'est un petit peu difficile. J'ai pu discuter avec un haut responsable de chez AXA, par exemple, pour ne pas le nommer. Mais AXA, par exemple, s'il devait rembourser la perte d'exploitation des entreprises, c'est au bas mot 60 milliards. Ça veut dire qu'on met en même temps le système d'assurance en défaut si jamais il se retrouve dans une situation où il devrait prendre en charge nos pertes d'exploitation. Après, il y a une différence entre expliquer qu'on ne va pas pouvoir tout faire et puis le silence radio. Et aujourd'hui, c'est quand même le silence radio qui les incarne le mieux.
Faut le regretter, ça, Fabien, c'est dommage.
C'est déplorable. Vous savez, j'ai eu, pour l'anecdote, j'ai eu un adhérent qui m'a appelé l'autre jour, qui a de très bons rapports avec son assureur. Il a eu son assureur au téléphone. Il lui a dit, voilà, j'ai une clause dans mon contrat, puisque c'était votre question, sur la perte d'exploitation et le remboursement des denrées périssables, en cas de catastrophe sanitaire. Et effectivement, la clause existait dans son
Ouais,
contrat.
ouais.
Son assureur lui dit, OK, je mets tout ça en place, je vois avec le siège et je reviens vers toi. Bon, ben le lendemain, c'est pas eu un coup de téléphone qu'il a eu, c'est un mail avec un rappel de l'article complet et l'article complet précisait que cette clause n'était valable que si dans la même région administrative, il n'y avait pas d'autres fermetures pour la même raison.
D'accord.
Donc on est bien en train de couper des cheveux en quatre et puis de se réfugier derrière le moindre bout d'article qu'on va trouver dans un contrat d'assurance.
Fabien, en Occitanie, il y a des mesures qui ont été prises aussi par la région. Est-ce que ça va vous aider, vous, les professionnels?
Oui, énormément. Je tiens à saluer une nouvelle fois l'engagement de la région pendant cette crise. Je crois qu'on a la chance d'avoir des gens qui sont complètement mobilisés autour de ces questions.
Et
Ils
qui
ont
ont
mis
agi
beaucoup de
vite,
choses.
hein, qui ont agi dans l'urgence aussi, et vite, oui.
Ils ont agi très vite, ils continuent. Moi, j'étais en réunion hier avec la direction du tourisme et du thermalisme de la région Occitanie. On commence à discuter ben, de l'après-crise, bien entendu, et également du fonctionnement des dispositifs. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de rétrécir les trous dans la raquette. Je m'explique. Vous avez énormément de dispositifs d'urgence qui ont été mis en place. Ces dispositifs d'urgence, vu qu'ils ont été mis en place dans un temps très court, il y a forcément des cas qui passent au travers et qui peuvent pas bénéficier soit d'un crédit, soit d'un report d'échéance, etc., etc. Le but du jeu maintenant, c'est de rentrer dans une analyse plus fine pour ne laisser personne sur le bas-côté. Je crois que notre président de la République l'a dit, nous sommes en guerre et aucune entreprise ne doit rester sur le carreau. Ça veut bien dire que maintenant, derrière, nous, on doit faire remonter les informations sur les cas particuliers. Je vous donne un exemple. Toutes les entreprises dont les dirigeants sont travailleurs non salariés vont bénéficier d'une aide de 1 500 euros.
Tout à fait, voilà.
Cette aide, elle n'est valable que pour les entreprises qui répondent à plusieurs critères, donc soit une fermeture administrative, soit une perte de chiffre d'affaires de 70%, et
Par
moins de 1
rapport à
million
l'année
d'euros.
dernière.
Exactement. Et moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. En hôtellerie et restauration, vous avez beaucoup d'affaires qui font plus d'un million d'euros.
Donc ne sont pas concernés.
Ces dirigeants sont absents pour l'instant de tout dispositif. Donc, il va bien falloir à un moment, selon le temps que dure la crise, ben, trouver un dispositif d'accompagnement financier pour eux, parce que leur priorité, c'est bien entendu le maintien dans l'emploi de leurs salariés, mais c'est aussi de pouvoir vivre et mine de rien, de pouvoir s'octroyer une rémunération. Pour l'instant, ils n'en ont pas la possibilité.
Tout à fait, de pouvoir évidemment réouvrir leur établissement. Fabien, c'est toute la chaîne qui est impactée, les restaurateurs, les salariés, mais aussi les fournisseurs. Est-ce que vous avez des retours, des échos? Comment vivent-ils la situation?
Je crois que c'est très difficile pour tout le monde. Nous, on a fait passer un message extrêmement clair. Aujourd'hui, on doit être respectueux de nos fournisseurs. Il faut impérativement réussir à payer au maximum ce qu'on leur doit. Certains étaient dans une logique de repli, et ça s'entend vu la période. Nous, on a la possibilité d'accéder au crédit, même si c'est pas la solution in fine, mais de reconstruire nos trésoreries. Vous avez le prêt PGE, qui est le prêt garanti par l'État à hauteur de 90% auprès de nos propres banques. Vous avez le taux rebond, le crédit rebond, qui est mis en place par la région. Taux à 0%, échéance sur 6 ans. Et vous avez un troisième prêt directement accessible par la BPI. Ça veut dire qu'on doit reconstituer nos trésoreries et payer nos petits fournisseurs. C'est très important parce que derrière, vous avez bien entendu tous nos terroirs,
Bien
toute
sûr.
notre agriculture qui en dépend.
Tout à fait, tout à fait. Et qui, eux, n'ont que ça pour vivre. Qui ne
Et
peuvent
qui eux
plus
n'ont.
faire les marchés actuellement, puisque dans la plupart des villes ou des villages, les marchés ouverts sont fermés, et qui n'ont que ça pour vivre.
Tout à fait. Alors, vous avez vu que aujourd'hui a été annoncée la réouverture de
Oui.
25% à peu près
C'est ça?
des marchés ouverts. C'est une mesure qu'on entend. On est assez satisfait quand même de voir que on a des drives fermiers qui se mettent en place, de la vente directe chez le producteur qui se met en place, qui fonctionne très bien. Nous, ce qu'on espère. Et là, je parle au titre de président du GNI, mais aussi de maître restaurateur, les maîtres restaurateurs qui incarnent véritablement le fait maison, le lien avec nos territoires agricoles. On a bon espoir qu'il en sorte du positif de cette crise et que demain, on soit capable de reconstituer un peu plus les liens qui nous unissent justement au monde agricole, qui nous unissent aux produits français et qu'on ait une véritable mise en avant. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faudra réussir à faire à la sortie de cette crise.
Tout à fait, vous puissiez être entendu. Effectivement, c'est une piste sérieuse, oui, de travail, à tout niveau, autant chez les professionnels que chez nous, les citoyens, tout simplement. Fabien, juste une dernière question, des conseils que vous pourriez donner actuellement aux restaurateurs, aux hôteliers qui nous écoutent.
Écoutez, je crois que dans ces moments, le principal, c'est de ne pas rester seul. Et je le dis en toute franchise, aujourd'hui, adhérent, pas adhérent d'une organisation professionnelle, vous êtes face à une difficulté. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vos chambres consulaires qui sont également là. Il y a énormément de solidarité qui se met en place. Nous, on essaie d'appeler au maximum nos adhérents, un par un, et c'est un travail de longue haleine, pour prendre des nouvelles, savoir comment va leur santé, savoir comment va la santé financière de leur entreprise, s'ils ont bien mis en place tous les dispositifs d'accompagnement. Et on s'aperçoit que pour beaucoup, eh ben, il y a forcément eu des oublis. Je crois que c'est très important de se prémunir maintenant pour être prêt au moment où on sera réautorisé à ouvrir.
Voilà,
mais exactement. Le principal, c'est de ne pas rester seul dans sa difficulté à l'heure actuelle.
Vous nous donnez un contact, on peut vous joindre facilement sur le site internet, sur le GNI.
Tout à fait, vous avez la page du GNI Occitanie sur Facebook qui est très active. Beaucoup de gens nous sollicitent via cette page. Vous pouvez nous écrire en direct, bien entendu, via le site internet. On essaie d'être au plus réactif parce qu'on sait que certaines questions sont urgentes.
Voilà, c'est ça. Vous l'avez été également pour nous, pour le goût d'entreprendre. Un immense merci, Fabien Jean-Jean, pour votre éclairage.
Avec plaisir. Bonne continuation à vous. Prenez soin de vous. Et puis surtout, pour l'instant, restez chez vous.
Merci, Fabien. Vous êtes créateur d'entreprise. Vous proposez des solutions. N'hésitez pas à nous contacter. entreprendre@radioprésence.com.